buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Les industriels européens de l'automobile sont inquiets. En avril dernier, ils ont alerté sur les conséquences, selon eux, désastreuses du Brexit. Au Royaume-Uni, pour 10 voitures vendues, 7 viennent de l'Union européenne, et ce sans droit de douane pour l'instant, ce qui vaut aussi pour les pièces détachées. Qu'en est-il pour les constructeurs britanniques eux-mêmes? La sortie du Royaume-Uni de l'UE risque-t-elle de leur être fatale? Tout dépend en fait de leur taille et de leur notoriété à l'étranger. Le reportage de Marie Billon commence chez un constructeur né bien avant l'idée européenne, Morgan Motors.
Elle a le ronron bruyant, un châssis en acier et un squelette en bois sur lequel sont fixés les différents éléments de la carrosserie. Tout cela ne ressemble pas à la description d'une bête de concours. Pourtant, la Morgan est la voiture de sport à l'anglaise par excellence. C'est dans cette usine de la ville de Malvern, dans la région du Worcestershire, à l'ouest de l'Angleterre, que la Morgan pointe son capot depuis plus d'un siècle. Tout est fait main par des ouvriers qualifiés comme Nick et Martin.
Ça, c'est l'arrière de la voiture. Je vais ensuite travailler sur l'avant et assembler le tout. Travailler quelques petits détails. En tout, ça représente 8 heures de travail.
Je reçois le châssis en bois et je le retrouve complètement en aluminium. Puis dans la dernière salle, on ajoute les ailes et le capot.
Le minois de la Morgan n'a pas beaucoup changé depuis 100 ans. Phare et rétroviseur ronds, roues de secours fixées sur le coffre. Sous le capot, par contre, on trouve un moteur moderne et puissant, explique James Gilbert, le porte-parole de l'entreprise.
Notre inspiration, ça reste le design des années 30. Ça n'a pas changé avec le temps. On a conservé cette sensation typique des voitures de sport britanniques. La direction n'est pas assistée. À part ça, c'est une vieille voiture sans les inconvénients. Vous pouvez toujours participer au rassemblement de voitures anciennes, mais vous avez un moteur BMW moderne. Dans certains modèles, vous avez un GPS et le Bluetooth intégré, de quoi brancher son téléphone. C'est tout le charme de la marque d'allier tradition et modernité.
Contre vents et Brexit, Morgan Motor ne compte pas changer de direction. D'ailleurs, pour l'instant, les effets du référendum ont été plutôt positifs.
Nous avons reçu plus de commandes grâce à la faiblesse de la livre sterling et la demande reste forte. 2016, ça a été une bonne année pour nous.
Même si Morgan importe de nombreux composants d'autres pays européens et que la société réalise une partie de ses ventes sur le continent, pas question de s'expatrier.
Toutes les Morgans sont construites ici à Malvern. Elles l'ont toujours été et elles le seront toujours. Nous sommes sur ce site depuis 103 ans, dans cette ville depuis 108 ans, et on n'a pas l'intention de déménager, où que ce soit au Royaume-Uni ou en Europe. Ici, c'est notre maison.
Morgan y perdrait en effet en prestige et puis seul un peu plus de 1000 voitures sortent de ses ateliers chaque année. Le coût des importations et des exportations est donc réduit. Pour les constructeurs qui ont besoin de plus de main-d'œuvre et qui assemblent des centaines de véhicules par mois, la délocalisation est beaucoup plus tentante. David Caro a créé à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, Qualplace Limited, il y a 40 ans, une entreprise qui crée des pièces automobiles. Sa situation est inverse de celle de Morgan. Par exemple, pour lui, le Brexit a déjà eu des retombées négatives.
Ce sont des temps difficiles et la chute de la livre sterling n'aide pas du tout. Ça irait si on exportait beaucoup, mais on travaille majoritairement à l'intérieur du Royaume-Uni. Donc nos coûts ont augmenté à cause du prix des composants que nous importons, qui sont jusqu'à 15% plus cher.
David emploie 26 personnes. Dans les derniers mois, deux de ses employés ont démissionné et il a décidé de ne pas les remplacer pour faire des économies. Mais c'est une stratégie qui risque d'affecter sa capacité de production.
Tout va dépendre de nos fournisseurs. S'ils décident de conserver leur production ici, au Royaume-Uni, nous resterons ici. Sinon, nous devons sérieusement penser à déménager notre chaîne de production. On en garderait une partie au Royaume-Uni, mais je pense que 50% irait en République tchèque ou en Slovaquie.
David Caro est déjà en contact avec la Chambre de commerce anglo-slovaque. Il a discuté d'emplacement et il s'est renseigné sur la faisabilité et le coût du déménagement de ces grosses machines sur le continent. Il attend de voir comment se passent les négociations avec l'Union européenne, répète-t-il, mais il a déjà le pied sur l'accélérateur.
Des cantiques et des chants pleins de ferveur, on en entendra beaucoup ce week-end à Fatima, au Portugal, où le pape se rend en pèlerinage. François y célèbre le centenaire des apparitions supposées de la Vierge, l'occasion pour l'Église portugaise de mettre en avant son patrimoine religieux, notamment à Lisbonne, le reportage de Marilyn Darcy.
Du rythme de la Genèse, des paroles joyeuses, l'hymne officiel des commémorations du centenaire du sanctuaire de Fatima transmet une image dynamique et moderne des catholiques et de l'Église. Une Église qui, à l'occasion de la venue du pape, fait un saut dans le 21e siècle et propose un site, un guide, des brochures et même une application pour faire connaître son vaste patrimoine aux touristes qui visitent Lisbonne. José Manuel Pimenta, responsable du projet d'édition Covadis.
Ce projet est le premier du genre. Il a fallu répertorier toutes les églises. Quelques-unes étaient mal connues. On ne savait pas ce qu'elles renfermaient, ni même si elles étaient encore ouvertes. 119 églises, ce n'est pas rien. On a dû repartir à zéro. Toutes les informations qu'on a glanées nous ont permis de proposer aujourd'hui des guides de qualité sous forme papier ou électronique. Il y a une unité de ton dans la présentation et le style. Comme ça, le touriste peut s'y retrouver facilement.
119 églises répertoriées dans Lisbonne, un travail de titan et l'occasion de redécouvrir des trésors oubliés. José Manuel Pimenta.
L'église Notre-Dame de la Conception, près de la place Terreiro do Passo, héberge une statue de la Vierge datant du 15e siècle. Cette statue a survécu à de nombreux tremblements de terre, y compris celui de 1755. La statue se situait auparavant dans un ancien ermitage à l'est de Lisbonne. Tous les navigateurs en partance pour le Nouveau Monde venaient lui rendre grâce avant leur long voyage. Vasco de Gama sur le chemin de l'Inde, Pedro Alvarez Cabral avant de se rendre au Brésil, ils ont tous prié au pied de cette Vierge.
La rédaction numérique et papier des guides Covadis s'est installée dans l'église San Nicolau, au cœur du centre historique de Lisbonne. Pour José Pimenta, la venue du pape était une bonne occasion pour lancer le projet.
C'est clair, on vit un moment historique avec le centenaire des apparitions et la venue du pape. C'est évident que ça va attirer encore plus de touristes à Lisbonne. On ne pouvait pas passer à côté de ces événements. C'est pour cela que le diocèse de Lisbonne a voulu cette offre de matériel et de plateforme digitale pour les visiteurs.
Que apresentamos. Anjos TV est un nouveau canal de télévision d'inspiration catholique.
On ne compte plus les essais, les éditions spéciales de la presse, les films, les documentaires, les spectacles pour commémorer les 100 ans de la première apparition de la Vierge Marie, sans oublier Angelus TV. Par ailleurs, un nouveau journal, Meu Papa, Mon Pape, vient de voir le jour. Il s'inspire de la version du Vatican, Meu Papa, avec qui l'édition portugaise a établi un partenariat. Clara Raimondo, chef de la rédaction.
C'est un magazine de 64 pages entièrement consacré au pape François. La moitié du journal, 30 pages, revient sur la semaine passée. Tout ce que le pape a dit, fait et qui il a rencontré au cours des 8 derniers jours.
La grande agitation commerciale et informative autour de l'événement ne surprend pas Clara Raimondo.
Je crois que c'était inévitable, mais moi je suis très heureuse de voir que Fatima a autant de visibilité. Nous nous disons que Fatima, c'est l'hôtel du monde, mais ce n'est pas toujours perçu comme ça. En ce moment, avec tous les regards tournés vers nous, vers Fatima et le pape, c'est devenu une réalité. Et le message de paix de Fatima est si beau que je suis particulièrement heureuse qu'il touche autant de gens, même si, idéalement, ce message ne devrait pas être récupéré.
L'hebdomadaire Meu Papa, qui évoque aussi beaucoup Fatima, est tiré à 100 000 exemplaires et il se vend très bien. Hugo Valadares, vendeur de journaux dans le quartier de Graça, à Lisbonne.
Les premiers exemplaires se vendent très bien, c'est l'effet de nouveauté. Les gens achètent le magazine parce qu'il ne traite que du pape et de l'Église. L'existence de la revue se justifie car il n'y a rien de comparable. Coïncidence ou non, ça tombe plutôt bien.
Dans un pays à 90% catholique, rares sont ceux qui critiquent l'enthousiasme général. Toutefois, l'attribution d'un jour férié à la fonction publique le vendredi 12 mai pour la visite papale a soulevé des protestations, l'Église et l'État étant séparés. Malgré ces réticences, la communication et les ventes de produits dérivés autour de l'événement se portent plus que bien.
C'est désormais impensif de rappeler qu'Emmanuel Macron, 39 ans, est le plus jeune président français de tous les temps, après Louis-Napoléon Bonaparte, élu en décembre 1848 à l'âge de 40 ans. Emmanuel Macron est aussi le plus jeune chef d'État européen et quasiment le plus jeune de tous les chefs de gouvernement du continent. L'occasion de faire le point sur cette nouvelle génération de dirigeants avec Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
La France a-t-elle connu beaucoup de dirigeants politiques de moins de 50 ans ?
Si l'on considère les chefs d'État républicains, on n'en dénombre que 4 depuis la Révolution française. Valéry Giscard d'Estaing avait été élu président en 1974 à l'âge de 48 ans. Jean-Casimir Perrier l'avait été en 1894 à 46 ans. Comme vous l'avez dit, Louis-Napoléon Bonaparte avait 40 ans lors de son élection en 1848. Enfin, bien qu'il n'ait pas eu le titre de président et qu'il a dû son accession au pouvoir à un coup d'État, celui de Brumaire, Napoléon Bonaparte est devenu premier consul de la République française en novembre 1799 à 30 ans.
Et j'imagine que parmi les premiers ministres, on trouve pas mal de jeunes.
Oui, bien sûr, surtout si vous considérez les 94 présidents du Conseil entre 1815 et 1958, époque auquel la quarantaine était déjà considérée comme l'âge mûr. Durant ce siècle et demi, on dénombre 21 chefs du gouvernement de moins de 50 ans.
Alors, en Europe maintenant, Daniel, est-ce que Emmanuel Macron sera le plus jeune chef d'État ?
Il va être le plus jeune président de la République puisque le cadet d'entre eux était jusque-là Andrzej Duda, le président polonais, 45 ans actuellement et 43 au début de son mandat. Il sera même le cadet des monarques, Philippe VI d'Espagne ayant déjà 49 ans. Toutefois, pour être parfaitement rigoureux, il y a un chef d'État européen, ou plutôt une chef, qui est encore bien plus jeune qu'Emmanuel Macron. Il s'agit de Vanessa D'Ambrosio, devenue en avril capitaine régent de la République de Saint-Marin à 29 ans. Il est vrai que ce micro-État est dirigé conjointement par deux capitaines régents dont les mandats sont limités à 6 mois.
Alors après les chefs d'État, les chefs de gouvernement européens, qu'en est-il Daniel ?
Qu'ils soient Premier ministre, chancelier, président du Conseil ou président du gouvernement, on compte 27 chefs de gouvernement dans l'Union européenne puisque la République de Chypre, dont le régime est présidentiel, n'en a pas. Exactement le tiers, soit 9, ont actuellement moins de 50 ans et la majorité dirige des pays nouveaux membres de l'UE. Il s'agit des premiers ministres roumains, croates, tchèques, lituaniens, estoniens et maltais. Ils ont entre 43 et 47 ans, à l'exception du Premier ministre de l'Estonie, Jüri Ratas, qui n'a que 38 ans et est donc plus jeune que notre prochain président. En outre, il a succédé à Taavi Reivas, qui n'avait que 34 ans à son accession au pouvoir en 2014. Plus près de chez nous, on connaît également le Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui n'a que 42 ans. Au Luxembourg, le libéral Xavier Bettel a 44 ans et nos voisins belges sont dirigés par le francophone Charles Michel, seulement âgé de 41 ans.
Alors voilà pour l'état civil, mais est-ce que cette génération de dirigeants cadra présente un profil particulier ?
Effectivement, la question mérite d'être posée puisque Emmanuel Macron présente un profil atypique dans la politique française, avec en particulier ses études de philosophie et son passage dans une banque d'affaires. Malgré leur génération, ses homologues européens quarantenaires n'ont pas forcément suivi un parcours original. Plusieurs, comme le croate Andrej Plenković, le tchèque Borislav Sobotka, l'estonien Jüri Ratas, le luxembourgeois Xavier Bettel ou encore le président polonais Andrzej Duda ont suivi des parcours très classiques. Études de droit ou d'économie, diplôme d'avocat, élu précoce. L'un d'entre eux est même fils d'eux, puisque le belge Charles Michel a vu son père Louis Michel député, eurodéputé, puis commissaire européen. D'autres positionnements sont plus originaux. Le grec Alexis Tsipras a été ingénieur civil et, très tôt, il a milité dans les mouvements étudiants d'extrême gauche. Quant au premier ministre lituanien Saulius Zvernialis, il était tout simplement commissaire de police avant d'entrer en politique. Enfin, le premier ministre roumain Sorin Grindaneu présente un parcours assez parallèle à celui d'Emmanuel Macron. Après des études d'informatique, il est devenu assistant universitaire en philosophie et sociologie, puis a fait un passage dans le privé en tant que directeur général adjoint d'une firme d'investissement.
Manifestement, Daniel, la nouvelle génération politique européenne ne présente pas un profil vraiment différent de ses aînés.
C'est vrai, Laurent, à une ou deux exceptions près. Il faut également rappeler le parcours très classique d'un ancien jeune Premier ministre, le Britannique David Cameron, arrivé au 10 Downing Street en 2010 à 43 ans. Fils d'un agent de change, issu d'une famille patricienne, études au collège d'Eton, diplômé d'Oxford, le jeune David a très tôt été assistant parlementaire, puis dès l'âge de 26 ans, conseiller au Trésor au sein du gouvernement de John Major. Enfin, on ne peut clore ce panorama de la jeunesse politique sans parler de l'ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi, arrivé à la tête du gouvernement en 2014, au même âge que Macron, 39 ans. Fils de député, études de droit, ancien scout, un temps journaliste, puis responsable des ventes presse dans une société de marketing appartenant à sa famille, il entre en politique dès l'âge de 21 ans. Il est élu local à 29 ans et devient, à 34 ans, maire de Florence. Un parcours très précoce comme celui de David Cameron et aussi, comme Emmanuel Macron, une volonté de renouveler l'offre politique du centre-gauche au nom d'un social-libéralisme assumé. Mais pas au point de vouloir complètement dépasser le clivage gauche-droite.
Donc finalement, Daniel, Emmanuel Macron a bien le profil politique le plus singulier d'Europe.
Oui, il coche toutes les cases. Jeunesse, parcours fulgurant, formation atypique, expérience du privé, volonté de se démarquer des partis classiques. S'il devait en outre choisir comme Premier ministre celui qui, à ce stade, semble tenir la corde pour le poste, à savoir Édouard Philippe, maire du Havre de 46 ans, la France se doterait du seul couple exécutif d'Europe de moins de 50 ans.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Située au centre de la Turquie, dans les plaines d'Anatolie centrale, Ankara est la récente capitale de la Turquie, choisie par Mustafa Kemal Atatürk pour marquer la rupture avec l'Empire ottoman. Loin d'être l'égal d'Istanbul, Ankara souffre d'une réputation de ville provinciale, terne et ennuyeuse. Pourtant, la capitale turque n'est pas dépourvue d'intérêt, comme nous l'explique Anandlauer.
Ankara, c'est le nom d'une race de chèvres, la chèvre Angora, nom autrefois donné à cette région d'Asie mineure. C'est le nom d'une race de chats au pelage blanc immaculé, mais c'est surtout le nom d'une ville d'Anatolie centrale dont il se trouve qu'elle est devenue en 1923 la capitale de la Turquie, alors toute jeune république. La ville nouvelle à l'histoire ancienne vit depuis 94 ans dans l'ombre de la sublime Istanbul, qui reste le cœur culturel, touristique et économique de la Turquie moderne. Pire, Ankara souffre d'une réputation de ville froide, très officielle, sans intérêt, sans rien à visiter. C'est faux. Ankara n'a certes pas la chance, comme Istanbul, d'être enlacée par deux mers, ni même une seule, mais elle offre tout de même de nombreux espaces de nature, y compris en son centre. C'est le cas notamment du célèbre parc aux cygnes, du parc Semenler, ou du parc botanique situé juste à côté de la haute tour Atakule, excellent point de vue sur la ville. Habité depuis l'époque hittite, deux millénaires avant notre ère, comme en témoigne son passionnant musée des civilisations anatoliennes, la plaine d'Ankara est un lieu d'histoire. On y visite des thermes et des temples romains, ou une citadelle qui a traversé les époques des Byzantins aux Ottomans. Contraste saisissant avec l'architecture des débuts de la République, symbolisée par l'impressionnant mausolée d'Atatürk, fondateur du nouvel État sur les ruines de l'Empire. Et puis Ankara, ce ne sont pas que de larges avenues sorties de nulle part, ponctuées de tristes bâtiments officiels. La capitale turque a également un cœur battant, la place Közölay, et le quartier de l'avenue Tunali Hilmi avec ses anciennes maisons, ses cafés, ses pâtisseries, ses galeries, ses intellectuels. La scène artistique ankariote, balbutiante, ne demande qu'à se développer. L'été, les nuits y sont très animées, avec régulièrement concerts et projections en plein air.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition d'Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 en universel et tout de suite sur RFI.fr à la page émissions.